Alors, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre premier ministre est dans une journée de repos bien méritée. Donc, on espère tous qu'il suivra les consignes du docteur Arruda s'il décide de profiter de l'arrivée du printemps. On le lui souhaite d'ailleurs. Il fait un excellent travail, comme on en conviendra tous. Donc, on vit une situation difficile, vous le savez, depuis maintenant 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines. Mais c'est important de garder le moral. C'est important de se rappeler qu'on est tous ensemble là-dedans, de rester solidaires, de rester unis et de ne surtout pas baisser la garde par rapport à l'application des mesures de santé publique, des directives de la santé publique pour freiner la propagation du virus. Le bilan d'aujourd'hui, justement, nous montre à quel point c'est important plus que jamais de respecter les consignes de santé publique, puisqu'aujourd'hui, on est à 2498 cas confirmés, une augmentation de 477. On a 43 589 cas négatifs et 6757 cas sous investigation. On a 164 personnes hospitalisées, une augmentation de 23, dont 57 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 7. Malheureusement, on a 4 décès de plus qu'hier, ce qui porte le total à 22. Et bien sûr, je vais en profiter pour offrir au nom de tout notre gouvernement nos condoléances à toutes les familles et à tous les proches de ces personnes. Je sais que c'est difficile d'entendre ça au quotidien. Aujourd'hui ne fait pas exception, mais il faut interpréter cette situation comme une raison de plus, si on en avait besoin d'une, de suivre scrupuleusement les directives de la santé publique, puisque chaque geste compte et que chacun doit faire sa part pour qu'on puisse enfin venir à bout de ce virus. Aujourd'hui, donc, on met en place des nouvelles mesures pour toujours renforcer l'application des directives de la santé publique. Je vais commencer par revenir sur la situation à Montréal. Comme vous le savez, hier, il a été annoncé que la ville de Montréal, la région de Montréal, se place en état d'urgence sanitaire à la suite d'un avis de la Direction nationale de la santé publique. Donc, je veux rassurer tout le monde, là, malgré l'annonce de cet état d'urgence sanitaire hier, je veux rassurer la population et tous ceux qui nous écoutent, la situation est sous contrôle. Le fait de placer Montréal en état d'urgence nous permet d'agir plus rapidement pour éviter le pire. Ça permet, entre autres choses, de faire des patrouilles policières accrues dans certains des quartiers les plus affectés. Et on continue, bien sûr, d'être en étroite collaboration avec les organismes communautaires locaux qui viennent en aide à nos personnes vulnérables, notamment à nos personnes sans abri. La situation, elle est plus difficile à Montréal et en Estrie, vous le savez, mais malheureusement, aucune de nos régions au Québec n'est à l'abri d'une situation qui pourrait s'empirer de jour en jour. Donc aujourd'hui, on annonce une directive de la santé publique qui va nous permettre de contrôler les déplacements dans certaines régions éloignées du Québec. L'objectif étant de mieux protéger les gens qui demeurent dans ces régions considérées plus vulnérables. Donc, les territoires touchés par cette ordonnance sont le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord du Québec, le Nunavik et les terres cries de la Baie-James. L'objectif, je le rappelle, de cette nouvelle ordonnance, c'est de contrôler les déplacements et donc de mieux protéger les populations de ces endroits qui sont considérés plus vulnérables parce qu'entre autres, elles sont souvent plus isolées. On a entre autres des communautés autochtones, des gens âgés qui demeurent dans ces régions-là. Et donc, les autorités de la santé publique sont d'avis qu'en contrôlant les déplacements, à la fois les gens qui sortent de ces régions-là et les gens qui veulent y entrer, ça nous permet de mieux protéger les gens qui y résident. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, il y aura des points de contrôle policiers qui vont être installés sur les grands axes routiers et qui vont effectivement permettre le contrôle des allées et venues dans ces 8 secteurs que je viens de vous énumérer. Alors, il ne faut pas se surprendre si à partir de 16 heures, on se fait intercepter et si on ne remplit pas les critères de déplacement essentiels, on va se voir retourner à notre endroit d'origine. Donc, seulement les déplacements essentiels seront désormais acceptés dans ces 8 secteurs que je vous ai énumérés. Vous le savez, on fait tout ça pour protéger nos régions les plus vulnérables, mais la consigne a été répétée abondamment dans les derniers jours par le premier ministre et je la réitère aujourd'hui. Indépendamment de ces 8 régions qu'on ajoute aujourd'hui, dont les allées et venues vont être contrôlées, tout le monde devrait rester dans la région où il se trouve en ce moment et éviter les déplacements entre régions, à moins d'avoir une raison absolument essentielle de se déplacer. Une autre directive qui est critique à ce moment-ci, c'est celle de l'isolement obligatoire des voyageurs qui rentrent au pays, des gens qui viennent de l'étranger, des États-Unis ou d'un autre endroit. L'isolement obligatoire de 14 jours. La Santé publique fédérale a clarifié sa consigne à propos de l'isolement obligatoire et maintenant, c'est vraiment le confinement obligatoire pour 14 jours de tous ceux qui viennent de l'étranger, qui doivent rester chez eux. Aucune raison pour sortir de chez eux, même pas prendre une marche, aller à l'épicerie, rien. Les gens doivent rester 14 jours chez eux, à moins de devoir sortir pour un test de dépistage. C'est la seule raison qui devrait faire en sorte qu'on sorte d'un isolement de 14 jours quand on revient de voyage. Donc, on demande bien sûr à tous les Québécois de se conformer à cette directive d'isolement obligatoire de 14 jours quand on revient de voyage. Et pour nous assurer que les gens respectent bel et bien cette directive, depuis 9 heures ce matin, on installe des points de contrôle policiers dans tout le long de la frontière américaine. Donc, on a des policiers qui font le contrôle aussi des arrivées, des gens à la fois qui arrivent par les... Il y a déjà des contrôles qui se faisaient dans les aéroports, mais maintenant, on veut faire ces points de contrôle-là dans les frontières terrestres avec les États-Unis. Donc, les policiers, l'objectif, c'est bien sûr de rappeler les consignes d'isolement obligatoire, de s'assurer que tout le monde est conscient des consignes qu'ils doivent suivre en arrivant au pays, de faire un premier contact avec ces gens-là, d'avoir de l'information sur ces gens-là pour pouvoir éventuellement faire des suivis. Et bien sûr, ultimement, toujours le même objectif de protéger la population et d'empêcher la contagion. J'en profite pour dire un mot sur le rôle des forces de l'ordre. Évidemment, j'invite la population, les citoyens, à demeurer vigilants et à signaler des situations qui contreviennent de manière évidente à la sécurité collective, à la sécurité de nos concitoyens. Par exemple, un rassemblement dans un parc qui n'a évidemment pas lieu d'être, on peut comprendre que ça fasse l'objet d'un signalement. Mais j'invite aussi les gens à demeurer prudents ou du moins à pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler la surveillance abusive ou le climat de suspicion entre voisins, entre concitoyens. Il faut pas devenir paranoïaque non plus. Donc, si vous voyez, par exemple, que votre voisin, il y a une voiture de plus dans son entrée qu'à l'habitude, c'est peut-être pas nécessaire d'appeler les policiers. Donc, j'invite les gens à être quand même pondérés dans leur façon de signaler ou non des situations, mais c'est sûr que dans le doute, je privilégie la vigilance. Simplement, juste s'assurer qu'on ne tombe pas dans les chicanes de voisins et tout ça, c'est certainement pas le temps d'alimenter des frictions avec nos voisins. Bien au contraire, s'il y a une chose qu'il faut retenir en ce moment, c'est qu'il faut rester unis, il faut rester solidaires, il faut tous regarder vers le même objectif, à savoir lutter contre le virus et s'assurer qu'on met en place toutes les conditions gagnantes pour y arriver, notamment en respectant, bien sûr, toutes les consignes de la santé publique. Je vais terminer avec les traditionnels remerciements du jour et vous me permettrez aujourd'hui, à titre de ministre de la Sécurité publique, de remercier tous ceux et celles qui assurent notre sécurité au quotidien. Des gens aussi très importants, nos policiers, nos pompiers, toutes nos équipes de sécurité civile, mes équipes chez moi au ministère de la Sécurité publique, mais un petit peu partout dans les municipalités, les équipes de sécurité civile de mesures d'urgence sont extrêmement actives et essentielles à la mission qu'on est en train d'accomplir tous ensemble collectivement au Québec. Donc, grand merci. Tout le personnel aussi du réseau des services correctionnels du Québec, qui eux aussi sont aux premières lignes avec une clientèle un petit peu différente, mais qui sont très, très importants dans le contexte actuel. Tous nos agents de sécurité privée aussi, qui sont de plus en plus nombreux à être déployés un petit peu partout, pour eux aussi mettre la main à la pâte et s'assurer de l'application et du respect collectif des directives de santé publique. Donc, je veux que vous sachiez que vous nous êtes aussi très précieux dans les circonstances. Vous êtes habitués pour la plupart aux dangers dans vos métiers respectifs, mais en ce moment, on est tous en train d'affronter une nouvelle forme de danger, un petit peu inédite, un danger qui est invisible, qui peut être partout. Donc, je vous remercie. Sachez que votre travail est très apprécié. appréciez et qu'on va faire tout ce qu'on peut pour vous protéger de ce virus et vous assurer des conditions de travail les plus sécuritaires et rassurantes possibles. Donc, sur ce, je vais terminer avec le message habituel de solidarité. On est tous ensemble dans la même bataille et il faut tous ensemble respecter les directives pour s'en sortir. Tout le monde doit faire sa part et contribuer à l'effort collectif, mais en étant aussi unis et solidaires qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois les Québécois de se plier aussi docilement pour la vaste majorité aux consignes depuis le début. Et c'est comme ça, tous ensemble, unis et solidaires, qu'on va passer au travers cette bataille-là.
Merci. Merci, Mme la vice-première ministre. Nous allons maintenant procéder à la période des questions avec Alex Boissonneau de Radio-Canada.
Madame la vice-première ministre, Madame la ministre, Dr Arruda, bonjour. Ma question a trait aux restrictions donc pour les déplacements. On parle de régions, entre autres, qui bordent le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir aussi des restrictions aux déplacements interprovinciaux? Si ce n'est pas le cas, quelle est l'utilité de cette mesure-là pour les régions dont vous parlez?
Pour l'instant, les points de contrôle sont vraiment avec la frontière américaine. Comme je vous le disais, voyez, à date, on a des points de contrôle à Saint-Bernard-de-la-Colle, à Saint-Armand et à Stanstead. Donc, la situation, évidemment, on le dit souvent, là, quelle que soit la question qu'on nous pose, on a souvent la même réponse. La situation évolue de jour en jour et d'heure en heure. Donc, tout ça pourrait être adapté éventuellement, mais pour le moment, notre objectif, c'est vraiment la frontière américaine. On sait qu'il y a une grande préoccupation de la part de la population par rapport aux snowbirds, si vous me passez l'expression, aux gens qui reviennent des États-Unis, de la Floride plus précisément. Et on s'est aperçu que peut-être il y a des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les directives précises qu'ils doivent appliquer. Donc, cet isolement préventif obligatoire de 14 jours. On tient à faire le maximum pour s'assurer de le dire à chacune des personnes qui traversent la frontière en ce moment. Il y avait déjà des gens, des employés du fédéral qui rappelaient ces directives-là, mais on voulait maximiser notre force de frappe préventive pour pouvoir s'assurer que tout le monde est au courant des consignes et qu'il n'y a plus personne qui va avoir de raison de ne pas les appliquer.
Question, vous demandez, dans le contexte, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour protéger les forces de l'ordre aussi, ou un plan de contingence avec des forces de réserve, par exemple, parce que là, ils vont se retrouver à interagir beaucoup plus avec le public?
Oui, tout à fait. Depuis le début, nous, au ministère de la Sécurité publique, on a une structure de communication, une structure de liaison permanente avec tous nos corps policiers au Québec, à la fois la Sûreté du Québec, les corps de police municipaux et les corps de police autochtones. Donc, on s'assure de la circulation de l'information et on s'assure, évidemment, je l'ai dit d'ailleurs dans mon allocution, de la protection de notre monde, du fait qu'ils puissent exercer leur métier respectif dans les conditions les plus sécuritaires possibles. Donc, les consignes, évidemment, ils respectent les consignes de sécurité dans la mesure du possible, selon le type d'intervention qu'ils ou elles doivent faire. Mais oui, on s'assure de les protéger. Ils sont au front, comme je l'ai dit aussi, on en a besoin. Mais ils font partie de la même société que nous. Donc, forcément, il y aura probablement des gens qui doivent être mis en isolement et il y en aurait éventuellement qui pourraient être contaminés. Mais les corps de police, tous les corps de police ont des plans de contingence, effectivement, puis ont prévu en conséquence. Il y a même le SPVM qui s'est mis en ce qu'eux appellent l'état d'urgence organisationnellement. Sherbrooke aussi. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, chacun s'adapte à la situation, mais au ministère de la Sécurité publique, on s'assure de garder le leadership pour à la fois transmettre les directives, l'application et tout ça, selon l'évolution des situations de jour en jour, mais aussi, surtout, pour les consignes de sécurité pour notre monde.
Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Bonjour à vous. Ma question va s'adresser à Mme McCann et au Dr Arruda. Compte tenu que vous décidez de fermer 8 régions à compter de 16 heures, est-ce que vous craignez qu'une explosion des cas fera en sorte que le réseau de la santé dans ces régions-là ne serait pas capable d'absorber le coût?
En fait, il faut dire que quand on ferme des régions comme ça, s'il y a des services essentiels, nécessaires pour aller prêter main forte, on les laisse passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que le réseau se prépare depuis 3 semaines au moins, et on le dit déjà, on a libéré 7000 lits dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des lits là, qui sont libérés dans ces régions-là. Nos urgences, d'ailleurs, sont peu occupées, tant mieux, parce qu'on a éliminé certaines activités électives dans toutes les régions du Québec. Alors, pour ces régions-là, comme pour l'ensemble du Québec, on s'est préparé. Et ce que je veux dire aussi, j'en profite pour dire quelque chose qui est très, très important à la population. que oui, on a la COVID-19 et il faut voir à la situation, mais que pour toutes les autres problématiques de santé qui nécessitent une intervention d'urgence, nous sommes là. Si vous avez des douleurs thoraciques, pensez que vous faites une crise cardiaque, vous appelez l'ambulance. Si vous avez des symptômes d'accident cardiovasculaire, vous appelez l'ambulance. Alors moi, je veux lancer ce message-là très fortement, que oui, on a beaucoup, puis c'est normal, mis le focus sur la COVID-19, mais comme je l'ai déjà dit, les problématiques là, qui nécessitent des interventions maintenant, à court terme, qui sont pressantes, qui sont urgentes, nous sommes là pour la population, on continue. Donc, vous appelez l'ambulance et on va faire les interventions nécessaires. Moi, j'entends dire qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui ont peur d'aller à l'urgence ou d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID-19. Il faut dire à ces gens-là qu'on a les mesures de protection pour des problèmes de santé autres que la COVID-19 là, qui nécessitent une intervention. N'hésitez pas. Appelez l'ambulance, rendez-vous à l'urgence, on va s'occuper de vous. Et si c'est pas urgent, mais vous avez besoin d'avoir une intervention, vous pouvez appeler votre médecin, si vous en avez un, dans les cliniques médicales. Les médecins sont vraiment au téléphone avec leurs équipes maintenant. Vous pouvez appeler une clinique de votre voisinage, on va vous répondre. Alors, on est là aussi pour les autres problématiques de santé.
Docteur Arruda, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, ajouter à ce que dit Mme la ministre. Mme la ministre a tout à fait raison par rapport au fait que la capacité de soins est augmentée aussi dans les autres régions. Mais indépendamment de la capacité, je vous dirais, de soins, il faut considérer que c'est des communautés qui peuvent être plus isolées. Par exemple, au Grand Nord, au Nunavik, on a déjà eu des épidémies de tuberculose. Les gens vivent dans des milieux qui favorisent la transmission. Donc, on protège ces gens-là. On sait aussi que dans ces régions-là, souvent, la population est plus âgée que la moyenne québécoise, donc plus à risque de complications. Et donc, dans les faits, indépendamment, je vous dirais, de l'approche de capacité de soins, on applique la stratégie qui a été faite un peu. Si on regarde en Chine, la région de Hubei, Yuan, a été très touchée, et les autres provinces, beaucoup moins. Donc, on applique ces éléments-là. C'est indépendamment de la capacité. Les directeurs de santé publique font l'analyse et nous recommandent ceci. Je voudrais aussi en profiter pour dire à la population que ces genres de mesures-là, on les prescrit, elles entraînent de l'anxiété, mais faut pas paniquer, il faut appliquer ce qu'on fait, il faut trouver les moyens de se détendre, je l'ai toujours dit, musique, autre ou ce que vous aimez. La situation qu'on vit actuellement, là, on n'est pas en perte de contrôle. Je tiens à le dire, parce que vous participez avec nous, on est en train, à mon avis, d'avoir des cas, mais qui sont bien gérés, et on verra dans quelques jours, semaines, qu'est-ce qu'on aura réussi. Je voudrais aussi revenir sur les décès. Je veux aussi, moi aussi, offrir mes sympathies. Vous savez, on regarde des statistiques, mais ce sont des vies humaines, OK? Et toutes les vies humaines sont importantes. Mais par contre, pour peut-être vous dire ce qu'on vous avait dit que les personnes vulnérables, c'était surtout les personnes âgées. Mais je veux juste vous mentionner, par exemple, que la majorité des gens, des cas, sont autour de la période d'âge de 80 à 89 ans. On en a deux qui ont 90 ans et plus, et il n'y a personne en bas de 60 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 70 ans, le risque va en augmentant. Plus on va avoir de données, et j'espère qu'on va en avoir moins pour vous offrir des statistiques stables, c'est pas ça l'objectif, on pourra vous donner. Mais donc, dans les faits, peut-être de voir que le coronavirus, même s'il est fatal pour ces personnes-là, et c'est pour ça qu'on met des mesures très importantes pour protéger nos personnes âgées, la majorité des gens qui vont être malades vont en guérir. Une bonne proportion n'iront même pas à l'hôpital, puis il y en a certains, même, ça va passer pour un rhume banal. Sauf qu'on se doit, même si on n'est pas à risque, de protéger les autres. Et c'est le sens des interventions qu'on fait depuis le début, et c'est le sens des interventions quand le premier ministre disait qu'il ne fallait pas faire de déplacements indus, c'est pour ne pas aller parsemer des cas qui vont devenir des bombes pour les personnes les plus vulnérables. On se doit par nos actions de le faire, et c'est ça qu'on fait actuellement, et c'est avec ça aussi qu'on va suivre la situation de jour en jour, et chacune des mesures sera ajustée à l'épidémiologie.
Respectueusement, je vous rappelle que le temps file. Alain Laforêt, sous question?
Docteur Arruda, actuellement, là, j'ai raté le chiffre, on est combien de cas confirmés?
On est à 2498.
2498, ça, c'est en raison de vos tests. Si on se fie au niveau de propagation, selon vos estimations, il y aurait environ combien de personnes dans la population québécoise qui pourraient être porteurs du virus et qui ne sont pas encore testées?
Et je n'ai pas ce chiffre-là, mais je ne vais pas m'avancer avant de faire des calculs.
Si on parle qu'une personne en contamine 8, on pourrait penser qu'il y en a plus de 16 000.
Ça dépend. Une en contamine 8 dans une situation où on n'a pas appliqué des mesures de distanciation sociale et de confinement. Puis là, je vais vous dire, pour être capable de vous répondre, il faudrait qu'on ait des données dans quelques semaines pour voir la courbe, etc., et calculer ce qu'on appelle le R0, c'est le nombre de cas que génère chacun des cas. 1 à 8, c'est si on ne fait rien. Donc, je peux vous dire que c'est pas ça qu'on observe actuellement au Québec, parce qu'on serait déjà dans une courbe beaucoup plus ascendante. Mais si vous me permettez, étant un scientifique, je ne veux pas avancer quelque chose sur lequel je n'ai pas de scénario valide, mais ce que je peux vous dire, actuellement, on n'est pas à un cas qui génère 8 cas, parce qu'on serait déjà beaucoup plus de cas que ça, puis on aurait plus de gens dans les hôpitaux et plus de décès.
Merci, docteur. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Madame la vice-première ministre, Monsieur Arruda, Madame McCann. Pour le bénéfice de tout le monde, Madame Guilbeault, pourriez-vous renommer les régions? Parce que c'est pas clair de ce que vous avez dit, là. Vous avez parlé de 8 régions, vous en avez nommé 5. Je pense que vous en avez oublié quelques-unes. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste précise, s'il vous plaît?
J'ai dit 8. C'est peut-être 6, en fait. C'est le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-Cries de la Baie-James. Vous avez raison, peut-être que j'en avais sauté deux. Puis je vais en profiter pour faire une autre précision, d'ailleurs, que je ne sais pas si elle a été claire pour tout le monde ou si en complément de la question de M. Laforêt. Ces régions-là, on va contrôler les déplacements, les entrées, les sorties de ces 8 régions-là. Sauf, en fait, tout va être interdit, tout allée et venue, sauf considéré essentiel. Et par essentiel, on veut dire tout ce qui se rapporte aux services essentiels, tels que conçus dans la liste qu'on a publiée il y a quelques jours, tout ce qui touche la santé et tout ce qui touche l'humanitaire. Donc, on peut penser si, par exemple, il devait y avoir des inondations, puis la Croix-Rouge doit se rendre sur place, bien, c'est une évidence qu'on va les laisser y aller. Donc, tout ce qui se rapporte aux services essentiels, à la santé et à l'humanitaire va être considéré comme des déplacements essentiels et va être autorisé.
Mais il n'y a pas une dissonance dans ce que vous avez dit tout à l'heure en réponse à M. Boissonneau. Vous avez, parce que là, entre autres, la Gaspésie a une frontière, même le Bas-Saint-Laurent avec le Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres territoires avec l'Ontario, etc. Vous n'allez pas contrôler, si je comprends bien, ces secteurs-là? Parce qu'il n'y aura pas de contrôle à la limite entre le Nouveau-Brunswick et le Québec?
Pour l'instant, on se concentre sur la frontière américaine. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 9 heures ce matin, on a des points de contrôle policiers. Et c'est un enjeu puis une préoccupation majeure. Vous l'avez sans doute senti comme moi dans les derniers jours. Là, l'afflux de gens des États-Unis a causé une certaine inquiétude. Et on veut s'assurer que chaque personne qui entre au Québec, au pays, mais au Québec plus spécifiquement, est au courant qu'elle doit s'isoler obligatoirement pendant 14 jours et ne sortir sous aucun prétexte, sinon un test de dépistage. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, eux-mêmes ont pris la décision récemment de fermer ce qu'on appellera la frontière là, avec le Québec, avec moyennant certains assouplissements là, pour les marchandises, les travailleurs et tout ça. Donc la décision a été prise de leur côté. Et pour l'Ontario, on n'envisage pas d'empêcher les allées et venues, du moins pour l'instant. Je dis toujours pour l'instant parce que vous le savez, tout change de jour en jour. Si on avait dit il y a 2 semaines qu'on annoncerait ce qu'on annonce aujourd'hui, les gens auraient pensé peut-être qu'on était fou. Mais pourtant, les choses évoluent, donc on évolue en conséquence. L'objectif, c'est toujours de prévenir au maximum. Je l'ai dit, on veut augmenter notre force de frappe préventive. Donc, en instaurant des points de contrôle policiers à la frontière américaine, en faisant en sorte de limiter les déplacements non essentiels dans 8 régions importantes du Québec. On couvre quand même un très gros territoire là, avec ces 8 secteurs-là que je vous ai mentionnés. Et ajoutant avec toutes les règles de santé publique qu'on connaît déjà, l'isolement obligatoire, strictement obligatoire, 14 jours quand vous arrivez de l'étranger. Tout ça ensemble, on l'estime, va nous aider à freiner la propagation du virus.